Terroir Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manila Kiza avec vous. Il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition spéciale du 5 novembre 2020 sur les élections américaines. L'issue de l'élection présidentielle américaine se joue sur quelques États clés où le décompte des voix se poursuit. La course reste trop serrée pour déclarer un vainqueur pour l'instant. Le secrétaire d'État de Géorgie dit que le résultat final dans cet État pourrait être connu cet après-midi. Le camp de Donald Trump a lancé plusieurs actions en justice. L'une des batailles concerne le grand État de Pennsylvanie. À Phoenix, en Arizona, plusieurs dizaines de personnes armées ont manifesté devant un bureau de dépouillement des bulletins de vote. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette édition spéciale sur les élections américaines. Deux jours après le scrutin présidentiel américain, la tension est réelle dans la poignée d'États qui pourraient décider de l'issue de l'élection. L'ancien vice-président Joe Biden a une avance dans le nombre de grands électeurs, mais la tendance peut changer avec le reste des résultats partiels attendus dans six États décisifs. Et le camp de Donald Trump a lancé plusieurs actions en justice, appuyées dans certains cas par des manifestations de partisans. Bagassi Koura.
On attend toujours les résultats des votes dans six États, l'Alaska, l'Arizona, la Géorgie, le Nevada, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie. Les projections de mercredi faites par la Voix de l'Amérique placent Joe Biden vainqueur dans le Michigan et le Wisconsin, deux États que Trump avait remportés en 2016. Ce jeudi matin, Biden avait 253 grands électeurs contre 213 au président sortant. Biden n'a besoin que de 17 grands électeurs pour atteindre le nombre requis de 270, mais rien n'est gagné d'avance. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'écart s'est resserré en Géorgie. Au fur et à mesure du comptage par machine de dizaines de milliers de bulletins envoyés par courrier, le président est en tête dans d'autres États qui n'ont pas encore donné de résultats. C'est le cas en Pennsylvanie, en Géorgie, en Caroline du Nord et dans l'Alaska. Dans l'Arizona, Donald Trump était en train de rattraper Joe Biden, risquant de ravir aux démocrates les 11 grands électeurs. La secrétaire d'État de l'Arizona, Kathy Hobbs, a déclaré ce jeudi sur ABC que le dépouillement durerait probablement jusqu'à demain vendredi. Le candidat Biden mène ce jeudi matin dans le vote populaire avec 71,6 millions de voix contre 68,1 millions pour Trump selon Edison Research et Associated Press. Avec le vote anticipé massif, le décompte total selon certaines estimations pourrait atteindre un record américain de 150 millions ou plus. Tout n'est cependant pas perdu pour Trump. Il peut reprendre l'un des États où Biden mène. À Phoenix, en Arizona, une foule pro-Trump, dont certains membres étaient armés, s'est massée à l'extérieur d'un site de dépouillement au cri de compter les voix et de honte à Fox. En Pennsylvanie, plus d'un million de bulletins de vote par correspondance sont actuellement comptés. Les résultats dans cet État sont attendus ce soir ou demain vendredi. Le camp de Trump a déclaré hier qu'elle demanderait un recomptage de voix dans le Wisconsin, où Biden mène avec environ 20 000 voix, et a déposé un autre recours pour tenter d'arrêter le décompte dans le Michigan, où Biden est en avance de plus de 35 000 voix. Les représentants de la campagne du président en Pennsylvanie, où Trump a mené à un moment donné avec environ 389 000 voix, sont également en train de déposer des plaintes en justice pour arrêter le comptage des bulletins de vote par correspondance. La campagne Trump a également déposé une plainte en Géorgie mercredi pour demander à un juge d'ordonner aux responsables électoraux de l'État de suivre la loi en conservant séparément et en comptant les bulletins de vote par correspondance, selon la Société Presse.
La bataille concerne notamment la Pennsylvanie qui détient 20 grands électeurs en jeu. Plus de 91% des votes ont été comptabilisés. Yacouba Ouedraogo a joint Nyaka Lagoke.
Il y a un nombre beaucoup plus grand de personnes qui sont plantées aux urnes, notamment dans la communauté noire. Deuxième élément, à cause des conditions à cause de la pandémie, beaucoup de personnes ont utilisé la voie postale pour pouvoir exprimer leurs intentions de vote. Chaque voie est importante et il faut la compter, donc c'est ce qui fait qu'il y a tout ce délai-là.
À quand faut-il s'attendre aux résultats en Pennsylvanie?
Je pense que cela devrait se faire dans les jours à venir, au plus tard le week-end, parce que je crois que jusqu'à hier ou ce matin, ils avaient déjà dépouillé plus de 70% des voix, donc je pense que ça devrait se régler d'un moment à l'autre.
Comment vous sentez la population en Pennsylvanie? Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Comment les gens attendent ces résultats-là?
On peut dire qu'il y a de l'anxiété, un sentiment de... Voilà, beaucoup de personnes pensent maintenant que Donald Trump va perdre les élections. Donc, je crois que ça, ceux qui sont contre lui sont un peu davantage soulagés. Mais les gens veulent quand même voir que la Pennsylvanie a voté du bon côté. Donc, je crois qu'il y a quand même une certaine expression d'anxiété.
On le sait, la Pennsylvanie n'est pas le seul État clé. Donald Trump a remporté cet État-là en 2016. L'Amérique entière a les yeux rivés sur la Pennsylvanie. Dites-nous pourquoi un tel engouement autour de cet État?
Oui, parce que par rapport au rôle historique que la Pennsylvanie a joué dans la plupart des élections américaines, et tout comme l'État de Ohio, parce que jusqu'à maintenant, il avait été démontré que tous les présidents américains, enfin la plupart des présidents américains qui gagnent les élections devaient gagner l'État de Ohio. La Pennsylvanie, parce que c'est un État, comme on dit, un État, un battleground assez important. Mais comme les deux candidats, chacun avait la possibilité de gagner les élections sans l'État de Pennsylvanie, c'est maintenant qu'on s'en rend compte. Mais avant le dépouillement, on estimait qu'il fallait absolument gagner la Pennsylvanie pour pouvoir gagner les élections. Et donc, mais sur la base du comptage qui a été déjà fait, Joe Biden peut gagner l'élection sans l'État de la Pennsylvanie. Mais pour les démocrates, et pour la suite des choses, c'est important de gagner cet État, qui est un État très, très important dans le contexte politique américain.
Nyaka Lagoke est professeur en Pennsylvanie. Il était au téléphone de Yakuba Ouédraogo. L'attente des résultats partiels de la présidentielle se prolonge. De nombreux bulletins ne sont pas encore comptés. L'équipe du président Trump annonce avoir saisi les tribunaux. Pour en savoir davantage, Mohamedou Onfa a joint Lembe Tiki, professeur de sciences politiques à l'université du Connecticut.
Je crois que le président sortant, M. Donald Trump, a compris que c'est plié, que la probabilité d'une victoire est désormais très faible pour lui, pour son camp, au vu des résultats obtenus dans les États du Michigan et du Wisconsin, où le candidat Joe Biden a déjà été déclaré vainqueur. Il y a aussi le cas de l'Arizona, l'État de l'Arizona et l'État du Nevada, où M. Biden est largement en tête. Et c'est très peu probable que M. Trump le rattrape. Et donc la situation est plus ou moins désespérée pour lui. C'est pour ça qu'il a actionné une stratégie bien pensée à l'avance. Il s'agit de créer une situation chaotique qui va lui permettre d'aller chercher un recours au niveau de la Cour suprême fédérale, où il a des amis qui vont lui donner une victoire.
Quelles sont les chances de voir ces contestations aboutir en justice et qui devrait trancher ce problème selon les lois américaines?
C'est les questions qu'il pose en ce moment sont du ressort des juridictions des États fédérés. Alors, il faudrait peut-être dire à vos auditeurs que M. Trump a déjà déposé plusieurs recours. Dans les États du Wisconsin, par exemple, il demande qu'on recompte les votes. Dans l'État du Michigan, il demande qu'on annule certains votes. En Pennsylvanie, il demande qu'on arrête le comptage des bulletins. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore eu gain de cause. Et je ne suis pas convaincu qu'il aura gain de cause à la fin du processus.
Quel pourrait être, selon vous, l'impact sur la suite de la procédure et quelles sont les conséquences politiques éventuelles?
Alors, la conséquence la plus immédiate des recours introduits par le candidat Trump devant les juridictions des États fédérés serait de ralentir le processus électoral. Cela empêcherait, par exemple, les grands électeurs de commencer les travaux le 15 décembre. Ça créerait une situation chaotique qui permettrait à M. Donald Trump d'introduire des procédures au niveau de la Cour suprême fédérale. Et si la Cour suprême fédérale se décidait de prendre le cas, alors les choses changeraient énormément. Parce que vous savez, M. Trump, durant ses 4 ans de présidence, a réussi à nommer 3 juges au niveau de la Cour suprême fédérale. Donc il y a un déséquilibre en ce moment qui donne l'avantage au camp Trump, au camp des conservateurs, qui ont 6 juges contre 3 pour les libéraux. Alors, on voit clairement que... Et il a dit depuis très longtemps que cette élection se déciderait au niveau de la Cour suprême. Et il espère bien être gagnant.
Lembe Tiki, professeur de sciences politiques à l'université du Connecticut. Nathalie Barge a également joint l'analyste politique Jean-Claude Nzamba, qui revient sur l'importance du décompte précis des voix, avant de conclure que la partie est pratiquement déjà jouée, si ce n'était au niveau du vote populaire plutôt que des grands électeurs.
Comme a dit le gouverneur Tom Wolf de la Pennsylvanie, la démocratie américaine est stable et il est important que chaque vote compte. Et c'est ce qui définit une démocratie, c'est que la participation de chacun et leur vote soient comptés dans les termes établis par la loi.
Alors, quels sont les États qui peuvent nous réserver des surprises?
Jusque-là, les États qui sont restants, on parle du Nevada, de l'Arizona, du Wisconsin, du Michigan, même si l'équipe de M. Trump ont déjà mis des avocats là-dessus en disant qu'ils n'ont pas pu assister ou avoir accès à certains bureaux de vote. Également la Pennsylvanie. Ce qui est clair selon les tendances, c'est que la Pennsylvanie risque d'aller à M. Trump, mais le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan à M. Biden.
Il y a eu plusieurs recours déposés par l'équipe de campagne de Donald Trump. Hein. Vous avez parlé notamment d'un cas tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ces recours ont des chances d'aboutir?
Bon, ce serait vraiment la deuxième étape de cette élection présidentielle qui nous rappelle un peu celle de 2000 entre M. Bush et M. Al Gore. Moi, mon avis est qu'à la fin de la journée, on va se comptabiliser sur les grands électeurs. Donc, le vote populaire, ce qui se trouve, c'est que nous avons à peu près plus de 40% d'Américains qui ont voté pour M. Trump et plus de 40% qui ont voté pour M. Biden. Il est vrai que ce sont ces électeurs-là qui élisent donc les grands électeurs et ces grands électeurs, en fait, élise le président de la République. Je pense que les choses risquent de se retrouver au niveau sûrement du vote populaire. Il y a des recours. Mais au niveau des grands électeurs, je ne vois pas vraiment comment cela va vraiment changer les choses. De plus que de dire que, par exemple, au niveau du vote populaire, j'ai gagné, donc je me considère président des Américains et que peut-être cela pourrait, dans l'avenir, amener une certaine conversation sur peut-être la manière de voter le président américain. Est-ce que beaucoup déjà se posent des questions, pourquoi il faut élire des grands électeurs? Pourquoi ne pas laisser carrément la population être celle qui élit donc le président de la République?
Jean-Claude Nzamba, analyste politique à Falls Church en Virginie. De nombreux Américains sont surpris que l'élection présidentielle ait été si étroitement disputée, ce qui reflète une profonde division du pays. Elizabeth Lee de VOA évoque ces divisions dans ce reportage, un récit d'Abdelhaman Dia.
L'élection présidentielle révèle que les Américains semblent vivre dans deux réalités différentes en fonction de leurs préférences politiques. Jeff est un partisan de Joe Biden.
Ça me rend malade. Je ne connais plus ce pays, mais vraiment pas. Je pense que Donald Trump l'a détruit.
I think Donald Trump broke it.
Beth Jordan soutient Donald Trump.
Eh bien, il a amélioré l'économie à mon avis. Mon épargne retraite a augmenté, mes taux sont à hausse. Je gagne plus d'argent maintenant et mes actions ont augmenté et je gagne plus d'argent.
Ces deux points de vue reflètent les profondes divisions dans le pays. Michael Alvarez est professeur de sciences politiques au California Institute of Technology.
Nous sommes divisés sur des bases partisanes et idéologiques. Nous sommes divisés sur de nombreuses questions sociales et économiques. Nous sommes divisés dans nos opinions et nos réactions face à la pandémie.
La soirée électorale n'a pas produit la vague bleue que les démocrates espéraient. Les sondages avaient montré Biden en tête dans l'État-clé de la Floride que Trump a finalement remporté. Pourquoi les sondages d'opinion ont été bien loin de la réalité? Michael Alvarez.
Il se pourrait très bien que pendant la pandémie, bon nombre de ces hypothèses sur la manière de cibler les sujets d'une enquête, puis l'analyse des données, aient été systématiquement erronées.
Alors que la campagne de Biden s'est concentrée sur la gestion de la pandémie par Donald Trump, la course serrée montre que les démocrates ont peut-être mal évalué l'importance des autres sujets qui ont conduit les électeurs à soutenir Trump. À nouveau, Michael Alvarez.
Ils se sentent exclus. Ils ont l'impression que eux-mêmes et leurs familles ont raté des opportunités. Et je pense que c'est le genre de mécontentement que Trump a vraiment réussi à saisir. Et je ne pense pas que cela ait changé. Depuis 2016, en effet, cela a peut-être empiré.
L'écart serré entre les candidats montre aussi un changement démographique et politique aux États-Unis, selon le politologue Michael Alvarez.
Je pense que le soutien prévisible de différents segments, comme les Noirs, pour le Parti démocrate, ce n'est pas une chose sur laquelle les démocrates peuvent compter. Et je pense qu'ils doivent vraiment travailler pour gagner les votes des Noirs, des Latinos et des Hispaniques.
Tracy Hinson, de l'État du Delaware, a voté pour Trump.
Je n'ai pas vu beaucoup d'enthousiasme pour Joe Biden. Je veux dire que je n'en ai pas vu.
Beth Jobson, qui est pour Biden, dit qu'elle veut un changement loin des divisions des quatre dernières années.
Je prie pour que notre pays se remette, pour que nous puissions nous unir, nous asseoir et avoir une conversation où on écoute tout le monde.
Le prochain président devra faire face à la pandémie et à ses conséquences économiques tout en essayant de diriger un pays divisé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afrique, la longue attente des résultats de la présidentielle américaine font l'objet de plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux et dans la presse. La politique africaine de Washington est aussi une des raisons de l'intérêt que suscite ce scrutin sur le continent. Pour une analyse, Abdulrahman Dia a joint à Dakar Mamadou Thior, journaliste et diplômé en études américaines.
Cette élection est suivie avec beaucoup d'intérêt chez nous, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'actuel locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, ne laisse pas indifférent. Parce que depuis 4 ans, ses coups de gueule, ses décisions ont un retentissement mondial. Ce qui fait que cette élection était attendue, qui le met aux prises avec Joe Biden, d'où l'intérêt que ça suscite. Et aussi, ce qui augmente un peu cet intérêt-là, c'est l'issue du vote. Parce que d'ici, les gens sont un peu quand même surpris que les États-Unis puissent voter et qu'à 48 heures après, qu'on ne puisse pas connaître le nom du vainqueur. Parce que,
et justement, comment cette longue attente est interprétée au Sénégal? Comment est-ce que les gens voient ça?
Les gens n'en reviennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas comprendre parce que les États-Unis nous avaient habitués à ce qu'on se réveille, vu le décalage horaire avec le nom du président. Mais cette fois-ci, 48 heures après, on ne sait pas qui a gagné. Et un peu ces histoires de grands électeurs, il faut expliquer ça aux gens. Moi, je me chine tous les jours à expliquer ça aux gens sur les radios et les télévisions. C'est un truc complexe. Et donc, on vous dit, mais finalement, le système est archaïque. Pourquoi les États-Unis ne revoient pas un peu ce système? Ça, c'est des questions que les Sénégalais se posent parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que même s'il faut compter et recompter, bon, quand même, avec tous les outils modernes dont dispose ce pays-là, la première puissance mondiale, rester 48 heures sans connaître le nom du vainqueur de l'élection, c'est comme ce qui se passe souvent chez nous en Afrique.
Bon, il y avait aussi peut-être Bush Vigor en 2000, mais certains pourraient dire que c'est aussi un signe positif quand on sait que la personne qui est au pouvoir ne contrôle pas tout le processus aussi, que cette personne est obligée d'attendre comme
Absolument.
Tout le monde les résultats.
Oui, d'ailleurs, quand il a parlé de fraude, lui, le locataire de la Maison Blanche qui est au pouvoir, c'est lui-même qui parle de fraude, alors qu'habituellement, c'est l'opposant qui doit parler de fraude. Les gens n'en reviennent pas, mais bon, en Afrique, oui. Les gens n'en reviennent pas parce que parler d'une élection frauduleuse aux États-Unis, mais heureusement, bon, les gens comprennent que les institutions aux États-Unis sont fortes. Et quand vous discutez avec les gens, ils vous disent, mais Donald Trump, plusieurs fois, il a pris des décisions. Et ce sont des juges qu'il a nommés, des juges républicains, qui ont dit niet, qui l'ont un peu remis à sa place. Donc la justice est indépendante aux États-Unis. Et c'est ça qui fait que les gens ont confiance que finalement les choses vont bien se terminer.
Mamadou Thior, journaliste diplômé en études américaines. L'ambassade des États-Unis au Mali n'a pas organisé de soirée électorale le 3 novembre. L'ambassadeur Denis Ankis parle du vote des Américains au Mali et de l'acheminement des résultats vers les lieux de comptage. Suivez.
Nous estimons que parmi les Américains ici, il y avait plus ou moins 1200 qui étaient éligibles de voter. Chaque citoyen a la possibilité de voter, mais à l'ambassade même, nous avons reçu plus ou moins 50 scrutins pour envoyer vers les États-Unis. Même que c'est sûr qu'il y a d'autres citoyens qui ont envoyé directement vers leur ville leur scrutin. Deuxième question était comment les Américains ont pu voter. Alors, dans notre système, alors pour chaque citoyen, il faut être enregistré pour voter dans votre ville, dans votre État. Et pour voter, il faut faire contact avec l'administration de votre ville quelques mois avant le vote pour demander un vote à absence qui s'est envoyé généralement, c'est envoyé par email de nos jours. Et après, il faut préencher le document qui peut être envoyé soit par l'ambassade, soit directement avec les autres moyens. Il y a même certains États qui acceptent les votes par email. Mais comme j'ai dit, il y avait les gens qui ont utilisé les moyens de l'ambassade jusque le 15 octobre pour voter. Autres ont donné le bulletin aux des amis. Et j'ai rencontré d'autres Américains ici qui, pendant leurs vacances aux États-Unis, ils ont voté en avance avant de retourner. Dernière question était combien d'Américains ont voté en Afrique? Et là, c'est très difficile à dire parce que c'est pas forcément fait par les moyens de l'ambassade. Il y a des milliers et des milliers d'Américains qui habitent en Afrique et dans le reste du monde. Ils sont très fiers que cette année, il y avait une participation record des Américains dans ces élections présidentielles. Alors pour nous, chaque citoyen qui vote, soit les Américains qui habitent à l'extérieur, soit les Américains qui habitent là, c'est important qu'ils participent dans le système électoral.
Propos recueillis par Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako. Direction le Nigeria pour parler de la place pour l'Afrique après l'issue de cette présidentielle américaine. Suivez ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Les administrations américaines successives ont décrit la relation américano-nigérienne comme l'une des plus importantes d'Afrique subsaharienne. Le gouvernement fédéral, tout comme les Nigériens, prête une attention particulière à l'élection présidentielle américaine en cours. Quelques réactions dans les rues de la capitale fédérale d'Abuja.
Je souhaite que le président Trump l'emporte. Moi, j'aime Trump. Je l'aime parce qu'il va changer beaucoup de choses, même dans certaines parties en Afrique. Surtout concernant le problème de terrorisme. Trump ira après les terroristes.
Lorsque vous parlez des élections américaines, c'est comme si vous parliez des élections du monde entier, parce que les États-Unis sont comme le policier du monde, donc tout ce qui se passe là-bas aura un impact sur le reste du monde, que ce soit sur le plan financier ou politique. Beaucoup de choses se décident aux États-Unis, donc celui qui gagne va déterminer ce qui se passera les prochaines 4 années.
Cependant, certains analystes s'inquiètent des autoproclamations de victoire et d'accusations de fraude, alors que le décompte se poursuit dans la plus grande démocratie du monde. D'habitude, ce sont des réactions que nous voyons plus en Afrique et souvent la source de plusieurs crises post-électorales comme celle en cours en Guinée ou ailleurs. Pour Hidayat Hassan du Centre pour la démocratie et le développement, il y a des aspects négatifs dans cette élection américaine.
Nous avions aussi appris un aspect négatif de cette élection. Ça ne sera pas bon pour nous parce que le pouvoir moral des États-Unis de s'exprimer sur certains problèmes de gouvernance et de dictature en Afrique sera très difficile parce qu'ils auront des preuves de ce qui s'est passé aux États-Unis.
D'autres parlent du défi majeur de la division qui s'installe au sein de la population de la première puissance mondiale. Le professeur Camilo Sanifagi du département des sciences politiques de l'université Bayero de Kano.
Another interesting thing about the election is the way Americans are divided.
Autre chose intéressante dans l'élection américaine est la division entre les Américains. Je pense que cela est dû aux déclarations et aux actions du président Trump. Cette élection sera dans l'histoire des États-Unis d'Amérique comme l'une des élections les plus contestées et discutées.
Deuxième partenaire commercial et la troisième destination pour les vols directs à étrangers américains qui investissent dans la région, le Nigeria se classe régulièrement parmi les principaux bénéficiaires annuels de l'aide étrangère des États-Unis dans le monde. Les Nigériens constituent la plus grande population immigrée africaine aux États-Unis, générant des milliards de dollars en flux annuel d'envoi de fonds aux familles restées au pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Merci à Gilbert Tamba. À Washington, entretient des relations fortes avec l'Afrique. Les différentes administrations précédentes ont appuyé beaucoup de programmes en faveur du continent noir. Pour en savoir davantage, Idriss Fall a joint l'ancien secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
Écoutez, les Républicains ont fait beaucoup de choses. Par exemple, le président Eisenhower a inauguré la mission des Nations Unies au Congo. Après l'indépendance, il y avait beaucoup d'instabilité, guerre civile. Président Nixon a été responsable pour la fin des Blancs qui est en contrôle de Rhodésie. Il a commencé la procédure pour l'indépendance de Rhodésie pour arriver à Zimbabwe. Président Bush, 43, a commencé le compte de Millennium qui a donné beaucoup d'aide aux Africains. Par exemple, récemment, les ports de Bénin étaient complètement rénovés. Il y a le grand aéroport de Dakar qui a été fait par ces fonds-là, de fonds de Millennium. Et aussi, l'indépendance de la Namibie a été faite par Chester Crocker dans l'administration de Ronald Reagan. Donc, les Républicains ont fait beaucoup de choses pour l'Afrique.
George W. Bush, notamment, il a beaucoup contribué à mettre fin à la guerre en Angola.
La guerre en Angola, c'était George Bush 41. Moi, j'ai été vice-ministre à l'époque. Nous avons négocié la paix en Éthiopie, Érythrée, au Mozambique. Et en Angola, tout ça, c'était sous George Bush 41.
Et vous-même, vous avez été un des auteurs de l'indépendance de l'Érythrée et aussi vous avez défendu l'indépendance du Sud-Soudan.
C'est ça, oui. L'administration de George Bush 41, il était là seulement 4 ans, mais il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais aussi Ronald Reagan, qui a fait le... indépendance de la Namibie et le départ des troupes, des soldats cubains de l'Angola.
Mais les démocrates aussi, de leur côté, ils ont fait beaucoup de choses pour l'Afrique.
Oh, bien sûr. President Kennedy, par exemple, il a fait le corps de la paix avec plusieurs milliers de volontaires du corps de la paix qui ont fait des bonnes choses partout en Afrique. Et aussi, il y a President Carter qui, pendant son administration, ils sont arrivés à l'indépendance de Zimbabwe. Aussi, Carter a fait passer par les Nations Unies une résolution 434 qui a demandé à l'Afrique du Sud de donner l'indépendance à la Namibie. Donc, c'est lui qui a commencé la procédure qui a terminé avec l'indépendance de la Namibie.
Plus tard, ce sont toujours les démocrates qui ont lancé l'initiative qui s'appelle AGOA.
C'est ça. C'est le président Clinton, dans son dernière année au pouvoir, a fait signer la législation qui a fait l'AGOA, qui a donné l'entrée aux États-Unis de tout ce que l'Afrique peut produire sans payer la douane. Donc il y a plusieurs pays maintenant qui tirent des bénéfices, par exemple le Lesotho, Tanzanie, Afrique du Sud, qui fabrique des choses qui entrent aux États-Unis en concurrence avec la Chine.
Au plan santé aussi, les États-Unis ont beaucoup contribué à la lutte contre le sida.
C'est ça. Le président Bush, 43, a inauguré un programme qui s'appelle PEPFAR, qui donne des médicaments aux gens qui souffrent de sida. Même maintenant, il y a un minimum de 10 millions d'Africains qui prennent des médicaments aux frais des États-Unis pour empêcher que le sida devienne dans la mort.
C'était donc Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette édition, à la mise en onde de Lionel Lunanila Garima, à la présentation Eric Manilakiza. Restez à l'écoute des programmes de VO Afrique sur voafrique.com et sur votre page Facebook. 24 heures sur 24. Excellente soirée à vous tous. Je vous retrouve demain. Au revoir.